Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. On va vous donner envie d'opéra, de danse, de Londres. Le Royal Opera House de Covent Garden a fait peau neuve. Assister à des répétitions sublimes entre midi et deux, prendre des cours de chant avec des ténors maison ou tout simplement prendre un café dans un hall ouvert sur l'extérieur et l'intérieur. Tout est possible grâce au projet Open Up. Reportage signé Marie Billon.
Un petit concerto entre midi et deux, c'est ce que propose le Royal Opera House tous les vendredis. Les live at lunch, comprenez les performances pendant la pause déjeuner, peuvent être des petits concerts ou des ballets. Souvent, ce sont aussi des répétitions en public. Aujourd'hui, de jeunes danseurs étoiles sont à la barre. Nous sommes en fait au premier sous-sol dans le foyer Lindbury. Mais il n'y a pas de plafond, l'endroit est grand ouvert. Il suffit donc de se pencher depuis le vaste hall d'entrée au rez-de-chaussée pour tout voir et tout entendre. Entre deux exercices, le professeur présente les artistes au public, leur demande de parler un peu de leur parcours. Le pianiste aussi est invité à expliquer son travail de musicien pour ballet.
Dans le cadre de répétitions comme celle-ci, il faut savoir improviser. Il faut aussi avoir une bonne technique, parce que les ballets sont écrits par Tchaïkovski, Prokofiev, Stravinsky. Et on ne sait jamais ce que le professeur va nous demander de jouer.
Un petit coup d'œil dans les coulisses de la préparation d'un ballet, donc pour les spectateurs, tous très détendus. C'est bien un verre qui dévale les escaliers et qui se brise au pied des danseurs. Et dans le fond, on entendra bientôt un bébé qui pleure. Cette joyeuse pagaille n'est peut-être pas voulue par la maison, mais elle est certainement bienvenue. Le Royal Opera House a changé de peau, a changé d'éthique, comme le dit son PDG, Alex Beard.
La nouvelle façade vitrée du bâtiment, ces nouveaux espaces créés à l'intérieur, ils changent la manière dont le monde nous regarde, car ils changent la manière dont nous envisageons le monde. Le projet Open Up est une philosophie qui nous permet de partager les mondes fantastiques que sont le ballet et l'opéra.
Le bâtiment a été construit en 1858, mais cette année, il a retrouvé une nouvelle jeunesse. L'architecture baroque est désormais mariée à un design très moderne, du bois de châtaignier et d'acajou surtout, à un plafond haut avec des carrés de pyramides inversées, ce qui plaît beaucoup aux visiteurs.
Je suis venue ici en août dernier, ça n'était pas comme ça. Tout est plus ouvert, plus relax. J'aime beaucoup cette idée d'ouvrir la maison et de proposer des événements gratuits pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un billet de concert.
Roof est venu assister au live at lunch, mais aussi participer au cours de chant de l'après-midi. Une heure après le live at lunch, il y a au même endroit un cours de chant. Une trentaine de personnes vient recevoir les lumières de Mark Biggins, chef d'orchestre. Nihat, par exemple, en redemande.
C'est la quatrième fois que je viens. Mon enthousiasme grandit, mais je ne sais pas si mon chant s'améliore. Mais je m'amuse beaucoup. C'est super de pouvoir chanter en plusieurs langues, en français, en italien, en allemand, et d'apprendre à fredonner un extrait de Madame Butterfly. J'ai vraiment l'impression de faire partie d'une communauté d'amateurs d'opéra. On n'a jamais l'occasion de se retrouver et de faire quelque chose ensemble, si ce n'est s'asseoir et assister silencieusement à un spectacle. Là, on peut sociabiliser, venir boire un café.
La La plupart de ses cours sont remplis à 100%. Linda s'essaie au chant pour la toute première fois.
Après ça, quand j'irai voir un opéra, la performance aura plus de sens pour moi. Et pour une fois, je participe au lieu de simplement regarder.
Le risque est de créer un nouvel espace pour l'entre-soi. C'est pour ça que le Royal Opera House organise aussi des activités pour les plus jeunes. Des cours de danse pour les petits ou bien des ateliers création pour apprendre comment fabriquer les accessoires qui seront utilisés sur scène. Julianne Barker est en charge de ces programmes.
Je crois passionnément que l'art est pour tout le monde, que l'opéra et le ballet peuvent parler à tous les âges, à toutes les classes sociales. Ils parlent de la condition humaine.
Et pour que ces expériences soient accessibles à tous, certains événements sont gratuits. Les ateliers, eux, sont à des prix raisonnables. Pour les enfants, à partir de 12 mois, les prix vont de 5 à 17 euros. Et pour les adultes, c'est 11 euros pour un cours de danse ou de chant. Et si les élèves sont enthousiastes, quelques dizaines de passants se pressent contre la toute nouvelle baie vitrée, intrigués par la musique qu'on entend jusque dans la rue. Certains entrent même, puisque les portes sont ouvertes, mais la plupart n'ont pas encore le réflexe. Roden Petit est le directeur associé de la firme d'architectes Staunton Williams en charge de ce renouvellement.
Nous voulons que les gens qui passent devant l'opéra voient de l'activité à l'intérieur du hall. Pour ça, on a ouvert un café. Avant, il n'y avait de l'activité qu'avant les concerts. Les gens n'étaient dans cet espace que pour déposer leur manteau à la consigne, récupérer leur ticket et disparaître dans les salles. Et puis voilà, le hall était vide. Maintenant, on veut qu'il y ait de l'activité tout au long de la journée.
Certains dénoncent la commercialisation de l'opéra avec son nouveau magasin de souvenirs en particulier. Mais côté programmation, la maison aussi a fait peau neuve. Moins portée sur les œuvres contemporaines, plus éclectique et aussi quelques opéras et ballets pour les jeunes, notamment Monstrous Child, un mythe nordique mis en musique.
Ce fut le plus jeune roi européen et son règne fut également le plus court.
La justice bulgare a tranché l'ancien roi qui ensuite était premier ministre, Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha, ne pourra pas récupérer ses palais. La cour estime qu'il s'agit de biens publics et non de biens particuliers. Ultime épisode emblématique du grand débat sur la restitution des biens après la chute du communisme à Sofia, Damien Vodenicharov.
C'est une saga qui dure près de 20 ans. Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha, alias Siméon II, roi exilé à l'âge de 10 ans après le coup d'état communiste de 1944, a dû dire au revoir non seulement à la couronne, mais aussi au palais et résidences royales qui vont avec. De retour en Bulgarie en tant que premier ministre en 2001, l'ancien monarque s'est restitué 5 palais et résidences secondaires et une parcelle boisée de plus de 1600 hectares, et ce grâce à l'aide de préfets qu'il avait lui-même nommés. Mais la réappropriation de ces terres a coûté cher à ce Saxe-Cobourg-Gotha. Le prix à payer était sa carrière politique. Et cette saga royale ne se termine pas là. Quelques années plus tard, c'est l'ancien garde du corps de l'ex-premier ministre, Boyko Borisov, qui est devenu à son tour chef du gouvernement. Et c'est alors que commencent les ennuis judiciaires pour Siméon. En 2009, le Parlement va jusqu'à lui interdire d'y résider. Pour le gouvernement, ses palais et résidences secondaires ont toujours appartenu à l'État et non à la famille royale. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas être restitués en tant que propriété privée confisquée par le régime communiste. Les documents confirment que la construction de ces résidences et leur entretien ont été financés par le budget national. Le palais Vrana, en périphérie de Sofia, est la résidence la plus chère et la plus vaste de ces résidences royales. Le palais lui-même a été construit entre 1904 et 1914 et fait 3200 mètres carrés. La propriété comprend un parc, des étables, un jardin botanique et plusieurs lacs qui s'étendent sur plus de 250 hectares. C'est aussi la dernière à être déclarée propriété publique, ce qui a poussé l'ancien roi et ancien premier ministre à déclarer qu'il était victime d'un second exil dans son propre pays. Mais Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha n'a pas encore complètement abandonné la partie puisqu'il a déposé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme.
À regarder de près, personne n'est normal. La citation est signée de Franco Basaglia, le psychiatre italien qui a donné son nom à une loi adoptée il y a 40 ans et qui a mis fin à l'internement des malades psychiatriques en Italie. L'insertion, voilà la solution. À Turin, un café, le bien nommé Basaglia, applique à la lettre ce principe puisque près de la moitié de ses employés souffrent de troubles psychiatriques. Comment cela fonctionne-t-il au quotidien ? C'est le reportage sur place de Cécile Debarge.
Les premiers clients ne sont pas encore arrivés, mais Roberto est déjà en cuisine, derrière les fourneaux, attentif à l'énorme casserole dans laquelle est en train de cuire du riz.
Je fais la pré-cuisson pour faire un risotto aux champignons, crevettes et courgettes. C'est seulement la première partie de la cuisson, parce qu'ensuite, on va le cuire une deuxième fois.
Dans 10 minutes, il sera temps d'égoutter le riz et de continuer la préparation des repas du soir. Roberto a 46 ans, il travaille comme cuisinier depuis le début de l'aventure du Café Bassalia, qui a ouvert ses portes 10 ans plus tôt. Il fait partie des 9 membres de l'équipe du restaurant, dont 4 ont des problèmes psychiatriques.
Nous travaillons 3 jours par semaine. Nous sommes aussi suivis par les services sociaux. Et ici, c'est un travail spécialement aménagé pour nous, et c'est grâce à cela que j'ai réussi à me ressaisir. J'ai eu dans le passé une expérience de travail assez traumatisante, et c'est vraiment ici que j'ai réussi à me débloquer.
Cet expert en parmigiana et caponata est l'un des patients du Gozamburu. Ce psychiatre turinois promeut l'inclusion des malades psychiatriques au sein de la société.
Je pense qu'on doit sortir du confinement, des lieux fermés, des diagnostics, des médicaments.
Le médecin a donc imaginé un lieu où les personnes saines et malades puissent travailler sans distinction. Une approche à rebours de l'institution psychiatrique en Italie. Ugo Zamburu.
Nous sommes de petits îlots séparés les uns des autres. On n'a aucun lien avec le territoire et c'est impossible de créer un phénomène d'inclusion comme ça. Au mieux, on peut traiter les symptômes, mais les patients restent en proie à l'isolement, aux préjugés, aux stigmatisations, aux difficultés de trouver du travail. Par exemple, les entreprises qui sont obligées par la loi d'embaucher des personnes handicapées, physiques ou mentales, dès lors qu'il s'agit d'embaucher une personne avec des problèmes psychiatriques, elles préfèrent payer l'amende plutôt que de les faire travailler.
Après près d'un an et demi de travaux, le 9 janvier 2008, le Café Bassalia ouvre ses portes en hommage au psychiatre italien qui a donné son nom à la loi qui a permis la fermeture des asiles psychiatriques.
J'ai toujours été marqué par une phrase de Franco Bassalia qui disait « Fermer les asiles, ce n'est pas la finalité de notre loi, mais le moyen pour évaluer notre capacité à accueillir au sein de notre territoire ceux qui sont différents. »
Et c'est l'un des points forts du projet. Créer en son sein les conditions propices à l'accueil de ses patients. Derrière le bar, Giorgio prépare un café. Ce barman a déjà travaillé comme boucher, serveur, ouvrier, mais depuis 2 mois, c'est au Café Bassalia qu'il officie.
Ici, c'est plus sûr, plus tranquille, on se sent en famille.
La famille, un terme qui revient dans les propos de Fabio, 39 ans, serveur au Café Bassalia depuis son ouverture.
Nous avons fini par rester entre nous. C'est un peu comme une famille aussi, avec les bénévoles qui viennent nous donner un coup de main ici.
Pourtant, pas de régime de faveur. Tous les soirs, le restaurant accueille les clients. Et pour maintenir sa rentabilité, il doit réaliser près de 24 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Un défi rendu possible par le large réseau de soutien du restaurant et par la passion de l'équipe. Gualtiero, chef de cuisine au Café Bassalia depuis 2 ans.
C'est un endroit fascinant. On essaye d'aider des personnes qui ont de grosses difficultés. Mais elles sont fantastiques. Elles donnent le meilleur. Elles ont envie de bien faire et elles sont très reconnaissantes.
Parfois, les symptômes des patients reprennent le dessus, explique Gualtiero.
Il faut avoir beaucoup de patience parfois. Il y a des jours où ils ne se sentent pas de travailler. Ils ont peur ou bien ils ont des difficultés à se bouger. Et dans ces cas-là, eh bien, il faut y aller doucement. Bien sûr, tu cherches d'abord à satisfaire les clients, mais il faut aussi être attentif à ne pas les stresser. Pour tout le reste, je dirais qu'on s'amuse plutôt bien.
Lorsqu'ils travaillent au café, pas question pour les patients de parler avec Ugo Zamburu de leurs médicaments ou de leurs problèmes. On ne parle que de travail. Une manière de leur rappeler qu'ils sont des travailleurs avant d'être des malades, aussi bien pour eux-mêmes que pour les clients du restaurant.
Nos clients et les membres de notre Café Bassalia, quand ils voient quelqu'un comme ça, ils le voient à travers ses qualités et pas à travers ses défauts. Alors le fou n'est plus cette personne imprévisible, mais ce serveur que vous voyez, ce serveur sympathique et efficace.
Un projet esthétique, politique et clinique, résume le fondateur des lieux, et surtout une expérience de vivre ensemble, malade ou pas.
Если вы не бывали в Свердловске, приглашаем вас в гости, ждем.
Ekaterinbourg, quatrième ville de Russie dans l'Oural. Des passionnés d'architecture ont voulu sauver l'héritage de la période constructiviste, un style épuré, issu de la révolution bolchévique. Visite signée Étienne Bouch.
Jusqu'à la révolution de 1917, la Russie est un pays très largement rural. Ekaterinbourg n'est alors qu'une petite ville de province que les bolcheviques vont transformer. Élevée au rang de capitale régionale, Ekaterinbourg est mise au service de l'idéal soviétique. La ville est rebaptisée Sverdlovsk et doit devenir un grand pôle industriel. Ses habitants sont sommés d'abandonner leur mode de vie et devenir citadins. Cette nouvelle classe ouvrière doit travailler et être logée. Les architectes de l'époque doivent relever un défi. Construire beaucoup, vite, avec peu de moyens, mais avec style. Leur mission consiste à rompre avec le passé et inventer des standards de vie conformes à l'idéal communiste. Car la révolution n'est pas seulement politique, elle est aussi culturelle. Le courant de l'avant-garde imprègne tous les genres artistiques. En architecture, les constructions aux lignes épurées remplacent les maisons de bois traditionnelles. Et c'est à Ekaterinbourg que cet héritage constructiviste est le plus visible. Au nord de la ville, le quartier ouvrier d'Ouralmash raconte l'histoire de cette urbanisation frénétique. Mais au milieu des années 30, le constructivisme est abandonné par Staline qui le juge trop minimaliste et lui préfère un style empire. À la disparition de l'URSS, les Russes se désintéressent de ces réalisations de l'avant-garde. À travers le pays, la spéculation immobilière emporte de nombreuses constructions de cette époque. Mais depuis quelques années, grâce à la mobilisation de passionnés, le regard sur ce patrimoine évolue. À Ekaterinbourg, on entend désormais valoriser cet héritage.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Frédéric.
On retrouve aujourd'hui de vieux habitués de cette chronique.
Et oui, les Anglais de Tongue, qu'on a régulièrement croisés sous ce nom ou sous celui d'autres projets et collaborations qui se sont multipliés ces dernières années, signent que la musique est avant tout une aventure humaine pour ce sextet autrefois basé à Londres, mais aujourd'hui éparpillé un peu partout en Europe. Et pour fêter ses 15 ans d'existence, Tongue met aujourd'hui les petits plats dans les grands, d'abord en actant le retour dans ses rangs de Sam Genders, fondateur du groupe qu'il avait quitté il y a quelques années, et puis surtout en publiant un sixième album très réussi, Songs You Make at Night, soit une dizaine de chansons qui évoquent cet état flottant entre le sommeil et l'éveil, et porte la signature du groupe, ce mélange si singulier entre folk acoustique et musique électronique. Old friend, do you make the sunset? Do you make the bright stars flee? Time is getting late, I know you've a gift for me. Old bird, I see it in your talons, glittering between the leaves. Friend, I'm swimming in the shallows, you're calling from the deep. We bide our time, and we shed our skins, and we shake our bones, and we sink like stone, and we crawl through mud till we reach the sky, and we bide our time.
Et on se quitte avec Crown du groupe anglais Tongue. Cette sélection des meilleurs moments d'Accent d'Europe était réalisée par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission et Accent d'Europe.